Quand, de retour à Purgatory, Franny aperçut la bicoque au mur tordu de la sorcière, elle eut l'étrange impression de se présenter à un rendez-vous fixé de toute éternité. Elle rangea la bicyclette et traversa la route pour aller frapper chez sa nouvelle amie. En vain. Personne ne lui répondit. En ressortant du jardin, elle distingua une ombre massive au sommet de la colline de ce boqueteau surnommé le bois de la source. La Shazam était là, courbée, procédant à une cueillette minutieuse d'herbes aux vertus imprécises. Franny prit le temps de l'observer, bien qu'elle se sentît déjà découverte. Au bout d'une minute, elle s'approcha. Comme elle l'avait craint, la prise de contact fut laborieuse. La vieille paraissait à peine consciente de sa présence. Occupée à gratter le sol, elle avait l'air d'une créature des bois un peu simiesque. Si elle avait été belle, jadis, cela ne se devinait plus aujourd'hui. Pour meubler le silence, Fran se lança dans un couplet sur les bienfaits des plantes, puis, devant l'absence de réaction de la mère Chénier, enchaîna tout aussi gauchement sur les risques d'empoisonnement qui sévissaient à l'époque des champignons. La Shazam semblait absente. En désespoir de cause, Fran insista sur le fait que certaines personnes bien informées connaissaient les secrets de la nature. Ceux du monde visible et ceux, plus dangereux, des espaces d'en bas. La vieille ne fit aucun effort pour relancer la conversation. Exaspérée, Franny insinua alors d'un ton insolent « Et quand je parle de secrets, je me comprends. » La paysanne sortit enfin de son indifférence, fit trois pas rapides en direction de Franny et siffla d'une voix aigre « Mais que veux-tu exactement, gamine ? Hein ? Que cherches-tu ? » Décontenancée par une attaque aussi directe, l'adolescente bredouilla avant de se résoudre à exhiber la montre récupérée dans les décombres du village maudit. Avec satisfaction, elle vit le visage de la paysanne devenir plus pâle. Cela ne dura qu'une seconde. Déjà la Shazam ricanait. Alors, tu es allé traîner là-bas, dans ce cimetière, et tu as trouvé l'oignon de cette canaille de Timothy Clampton. Une vieillerie, oui. On ne t'en donnera pas deux sous chez le prêteur sur gage. Cet homme, il vous avait fait du mal, n'est-ce pas ? Osa enfin articuler l'adolescente. Ils me voulaient tous du mal, grommela la vieille entre ses lèvres serrées. Et crois-moi, ça ne leur a pas porté chance. Le ton était empreint d'une telle rancœur que Franny se sentit soudain complice d'une mauvaise action. Et, chose étrange, cela ne lui déplut pas. « Vous vous êtes battu et vous avez gagné, protesta-t-elle. On ne peut rien vous reprocher. »« Tais-toi et arrête de couiner comme une lapine qui met bas, » grogna la Shazam. « Tu ne profères que des sottises comme tous les gosses de la ville. Moi, j'ai su me protéger, eux, non. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Ce n'était pas un crime. » Je n'ai attaqué personne, alors même qu'on me harcelait. Je me suis simplement protégée. Ce n'est pas moi qui les ai tués, mais les forces qui me servaient. Mes gardes du corps invisibles se sont chargés de la sale besogne. Tu comprends ? Moi, je me suis contentée d'attendre, les bras croisés. Je les ai regardés crever un à un. C'était un spectacle assez réjouissant, tu peux m'en croire. Et aujourd'hui, est-ce que vous pourriez encore le faire ? Bredouilla Franny. Je veux dire, protéger quelqu'un qui serait menacé. Au lieu de répondre, la paysanne se pencha vers le sol, ramassa une plante en émettant un bruit de gorge que Franny ne sut interpréter. Criait-elle ? Grognait-elle ? Elle entendit la vieille murmurer que si ce n'était pas facile, c'était du moins envisageable. Finalement, après avoir grommelé un salut inintelligible, la chenille tourna les talons. Franny demeura seule dans la pénombre du sous-bois. Elle avait la sensation d'avoir tenté de communiquer avec un extraterrestre ou un menhir dur d'oreille. Pourtant, elle débordait d'euphorie. De retour à la maison, Fran entreprit d'astiquer la montre de cow-boy exhumée des décombres. En s'appliquant, elle parvint à redonner au métal son aspect du bijou ancien. Une fois cette restauration achevée, elle l'installa en évidence sur la table de la cuisine pour la contempler à sa guise. Elle passa le reste de la journée à rêvasser et à épier la chasame par l'entrebâillement de la fenêtre. « Ma pauvre fille, » fit la voix lointaine, presque éteinte de sa sœur, « tu es en train de perdre la boule. Cesse de fréquenter cette vieille dingue. Elle est mauvaise. »« Tais-toi, » répondit Fran entre ses dents. « Je ne t'écoute plus. Tu n'es plus rien. Ta voix couine à peine plus fort que celle d'une souris. Pour te réduire au silence, je n'ai qu'à avaler un cachet d'aspirine en prononçant une formule magique que m'a indiquée la chignée. Je n'ai plus peur de toi. Tu ne parviendras pas à me donner la migraine. Ce temps-là est révolu. » Les heures s'écoulèrent. Les ombres changèrent de côté. Soudain, Fran vit avec terreur se matérialiser la voiture de son père au bout du chemin. Il était de retour. Pétrifiée, elle resta figée derrière la vitre, souhaitant confusément qu'une fausse manœuvre jette l'automobile contre un poteau télégraphique. Hélas, rien de tel ne se produisit. George Monroe se gara sans incident. Une minute plus tard, il gravissait l'escalier. Fran se glissa dans la cuisine, sortit une poêle, mit un peu d'huile à chauffer. Des œufs sur le plat, après tout, pourquoi pas, songea-t-elle. Des œufs pondus par la chignée. Ça pourrait être amusant de les lui faire avaler. Déjà, Monroe avait ouvert la porte de la salle à manger. Il cria. « La table n'est même pas mise. Qu'est-ce que tu as foutu depuis ce matin ?» Fran l'entendit aller et venir à la recherche de ses cigarettes, de son briquet. À présent, sa silhouette se dessinait à travers la porte en verre dépoli de la cuisine. Il entra. Il sentait l'homme. Des auréoles sombres tachaient sa chemise sous les aisselles. Le grésillement des œufs parut brusquement insupportable. Franny resta muette, les yeux fixes. Elle vit sans transition la colère remplacer la mauvaise humeur sur le visage de Georges. Elle sut qu'un reproche majeur allait lui être asséné tel un coup de masse. « Ma montre !» halta l'homme d'une voix atone. « Idiote, tu as cassé ma montre !» Franny bafouilla. « Attends, ce n'est pas... » Avant qu'elle ait pu s'expliquer, deux gifles lui marbrèrent les joues de leur flaque brûlante, la faisant vaciller. « J'ai passé ma journée à me battre avec des fournisseurs qui ne sont même pas foutus d'embaucher des livreurs parlant notre langue, » s'emporta l'homme, « et pendant ce temps, ma demeurée de fille ne trouve rien de mieux que de réduire en miettes mes objets les plus précieux. Une montre ancienne qui venait de mon grand-père. En plus, elle ne sait même pas cuisiner. Depuis que je suis partie, tu avais le temps d'aller aux provisions, non ? Voilà ce que j'en fais de ta mangeaille de bon à rien. » Joignant le geste à la parole, il jeta la poêle et son contenu dans la poubelle. « Mais ce n'est pas ta montre, » articula péniblement Franny, qui avait contourné la table pour se mettre hors de portée de la main paternelle. Elle vit l'adulte tâter la poche de son gilet et se figer. Monroe ne perdit contenance qu'une brève seconde avant de vociférer. « De toute façon, tu es en dessous de tout, » conclut-il en désignant la poubelle. « Prépare-moi une nourriture décente. Les œufs sur le plat, c'est bon pour les chômeurs. » Il s'éloigna de trois pas, puis tourna les talons pour revenir vers sa fille comme un taureau chargeant corne basse. « Je croyais t'avoir interdit de sortir, » gronda-t-il. Cette fois, Fran était prête, raidie, enracinée dans le carrelage pour affronter la tempête. « Je l'ai trouvée hier, » souffla-t-elle, la gorge serrée, au fond du jardin. « Heureusement pour toi, » grogna l'homme, la bouche mauvaise. « Crève donc !» pensa l'adolescente. Aussitôt, elle se mordit la langue, effrayée d'avoir proféré une telle malédiction. Le lendemain, elle se rendit chez la chaignée, décidée à exposer sa requête sans faux fuyant. Je sais que vous avez des pouvoirs, murmura-t-elle. Je veux me défendre, moi aussi. Il n'y a que vous qui puissiez m'aider. Apprenez-moi, j'obéirai.
C'est ton paternel qui te fait peur, hein ?
Lui dit la vieille. Tu vois, tu ne m'en as jamais parlé, pourtant je sais.
Tu es arrivé à ce moment charnière où le regard des pères change quand ils se posent sur leurs filles. Un moment dangereux où bien des choses mauvaises peuvent arriver. Il suffit d'un rien, d'une occasion, d'un verre de trop. La mère absente, l'homme solitaire avec ses grosses envies de mal. Mais tu sais tout ça, n'est-ce pas ? Je n'ai rien à t'apprendre. Tu sais que ça va se produire. C'est pour cette raison qu'il t'a amené ici, loin de ta ville natale. Il ne pouvait pas décemment le faire chez vous. Ici, c'est possible. Purgatory, c'est le village des petits crimes intimes. Depuis toujours, on s'arrange à l'amiable avec ses hontes, ses vices. Oui, oui, c'est imminent, je le sens. C'est sur toi. Ça se rapproche. Les hommes deviennent fous quand leurs filles sont en âge d'être mariées. Ils refusent de laisser un autre se charger de la besogne. C'est comme ça depuis toujours. On ne le dit pas, c'est tout. On veut faire comme si ça n'existait pas. C'est très ancien. Ça remonte au temps des cavernes, quand le chef du clan pouvait s'approprier n'importe quelle femelle et l'engrosser à sa guise pour augmenter le nombre de ses guerriers. Elle se tut à bout de souffle. Ses yeux brillaient dans la pénombre. « Reviens ce soir quand il dormira, » souffla-t-elle. « Je te ferai accomplir les gestes qui sauvent. » « Il faut faire vite, tu n'as plus beaucoup de temps. Son ombre est en train de s'étendre sur toi. » Franny prit la fuite, incapable d'articuler une syllabe. Recroquevillée dans sa chambre, elle attendit le coucher du soleil. Le soir venu, après avoir vérifié à maintes reprises que son père dormait, Franny se rendit chez la mère Chenier. Sa belle assurance du matin s'était évanouie. Elle doutait. Pour un peu, elle aurait aimé demander conseil à sa sœur fantôme. Enfin, la Shazam la fit entrer. Curieusement, la pièce semblait différente de celle qu'elle était dans la journée. Plantée au milieu de la table, une bougie dispensait une lumière trop faible pour dissoudre la nuit épaisse enveloppant meubles et murs. Sur la cheminée, des poudres odoriférantes se consumaient, emplissant la pièce d'odeurs entêtantes. Quelques braises éclairaient les chenets. Franny remarqua pour la première fois que ces derniers se terminaient par des têtes cornues. Bouc, vache ou diable ? La coudoir tailladée du prie-dieu était recouverte d'une pièce d'étoffe. Des dessins géométriques aux formes bizarres y avaient été brodés. Au mur, elle aperçut un fusil. Cet objet typiquement masculin la surprit. La chenier, une femme pourtant âgée, savait tirer. Qui le lui avait appris ? Oui, je sais m'en servir, ricana la vieille femme en regardant l'arme que l'adolescente ne quittait pas des yeux. Il est en état de marche. Tu vois, les cartouches sont là dans le tiroir. Ce n'est pas pour faire joli que je le garde suspendu, mais pour l'avoir sous la main en cas de besoin. Il est très vieux. Il a tué pas mal de bonhommes, indiens ou blancs. Pan, pan, il ne fait pas la différence. J'aime sa présence. C'est comme un bon chien de garde. Elle haussa les épaules. Assieds-toi, ordonna-t-elle en changeant brutalement de ton. Franny obéit. Tu es venu, c'est bien, commença la Shazam qui s'obstinait à rester debout. Tu as dû avoir peur, non ? À présent, ce sera plus facile. Les forces des ténèbres vont t'escorter. Tu ne seras plus seule. La vieille s'interrompit brusquement pour disparaître dans l'obscurité noyant la pièce. Franny entendit craquer la serrure de l'armoire. La porte, en s'ouvrant, alla cogner contre le mur. La paysanne referma à clé et se matérialisa de nouveau dans l'étroit halo dessiné par la flamme de la bougie qui vacilla à son passage. « Voilà, fit-elle en déposant devant l'adolescente une fiole brune. « Une cuillerée de ce breuvage dans la soupe de ton père, et tu pourras sans crainte quitter ta maison pour venir ici. »«
Qu'est-ce que c'est ?» s'inquiéta Fran.
« Ne commence pas !» gronda la chénier. « C'est moi qui pose les questions, c'est toi qui réponds. C'est moi qui commande, toi tu obéis. Compris ?»
Tout à coup, sans que Franny comprenne pourquoi, la paysanne parut moins sûre d'elle, prête à renoncer. Une étrange fragilité passa sur son visage ridé, ombre fugitive qui s'effaça aussitôt.
« Tu peux encore partir, soupira-t-elle. Rentrer chez toi, oublier tout ça. Il est encore temps. Je te donne ta chance, après il sera trop tard. Une fois la mécanique lancée, il ne sera plus question de revenir en arrière. Je suis peut-être trop vieille pour la guerre. »
Franny eut l'impression que la mère chenier parlait d'autre chose. Mais de quoi? Elle bredouilla qu'elle restait et fit le geste d'attraper le flacon. La chasame lui saisit le poignet avec force. Ses yeux semblaient avoir du mal à se fixer. Une fois de plus, elle parut sur le point de renoncer.
« C'est bon, » finit-elle par lâcher d'un ton chargé de lassitude. « La fiole est à toi.
C'est une mixture qui rendra ton père somnolent et lui fera la queue molle.
De cette façon, il ne sera plus capable de faire grand-chose.
Ça ne marchera qu'un temps, parce que son organisme finira par s'habituer au produit qui perdra peu à peu tout pouvoir. Passons aux actes à présent.
Voici un tambour d'enfant que j'ai volé un soir de Noël au pied de la crèche à l'église de Purgatory.
Elle se tut, bougonna une seconde avant de reprendre d'une voix autoritaire.
Tu vas t'en servir pour appeler les esprits. Le rythme, c'est pan-pan-pan de la main gauche et pan-pan de la droite. Tape avec tes doigts.
Franny saisit l'instrument, persuadée qu'une gerbe d'étincelles allait jaillir à l'instant même où sa chair entrerait en contact avec le métal. Rien de tel ne se produisit. Elle coinça le joint entre ses cuisses, lança un regard interrogateur à la vieille femme qui l'encouragea d'un hochement de tête silencieux. L'adolescente se mit alors à frapper sous l'œil inquisiteur de son initiatrice. Pan-pan-pan, pan-pan. Les coups s'égrenaient en une suite d'explosions creuses.
« Ils sont là, je le sens !» souffla la chasame d'une voix altérée. « Fais ta soumission. Il n'en demande pas plus pour une prise de contact. »
Franny s'exécuta. Les deux femmes restèrent un moment silencieuses. Le temps avait cessé de couler. L'adolescente eut l'impression que la chénier se fossilisait comme une bête préhistorique. Il y avait de la peur et de la fatigue dans cette immobilité. Un curieux mélange. Enfin, la vieille s'ébroua. « Va » jointa-t-elle en guise de congé. Le contact est établi. Demain, tu subiras la première épreuve.
Secouée par l'expérience de la nuit, Franny passa la journée du lendemain à se refaire une santé. En effet, au retour de sa visite nocturne, elle avait été assaillie par les frissons d'une étrange fièvre froide.
Du fond de ses rêves, elle avait entendu sa sœur gémir. « C'est un piège, tu es en train de te faire posséder. Réagis. Avant, c'est à moi que tu demandais conseil. » Fran décida de ne prêter aucune attention à ses jérémiades. Elle se réveilla en claquant des dents. Une heure plus tard, au petit déjeuner, elle avala 2 comprimés d'aspirine.
« Les forces des ténèbres n'apprécient pas les serviteurs malades, pensa-t-elle, en observant son reflet dans la vitre. Je dois me reprendre. »
Puis, elle écouta son père lui seriner la liste des tâches à accomplir au cours de la journée. Elle jugea son geôlier grotesque. Il parlait en postillonnant. Il ignorait qu'il venait d'avaler sa première cuillerée de mixture magique en même temps que son café.
« La queue molle !» se répéta Fran en se retenant de pouffer. « La queue molle !» Au cours de la journée, elle observa un net ralentissement chez Jean Monroe, dont l'œil se voila dès midi. Bientôt, elle se surprit à battre plus de besogne que lui. Elle tailla les ronces, brûla les mauvaises herbes, pendant qu'il somnolait sur un banc, sa cigarette se consumant entre ses doigts. Elle eut terminé plus tôt que prévu. Le soir, elle versa sans trembler une seconde dose du breuvage magique dans le potage de Monroe. Puis, au premier ronflement, elle se glissa chez sa bienfaitrice. Si le décor n'avait pas changé, l'odeur de parfum, elle, était encore plus écœurante. Sur la table, un verre vide avait été disposé au centre d'un curieux napperon triangulaire sur lequel avait été brodée au petit point la devise « Ad majorem Satanae gloriam ». La chasame avait revêtu une robe noire qui masquait ses formes. Elle paraissait énorme, une sorte d'idole africaine de la fertilité. De ses manches sortaient des mitaines ne laissant apparaître que le bout de ses doigts aux ongles massacrés par les travaux de la terre. Franny n'avait jamais remarqué à quel point ils étaient sales, épais comme des griffes. La vieille femme lui mit le verre entre les mains. « Réchauffe-le et bois !» ordonna-t-elle en le remplissant d'un liquide chargé de grumeaux. Franny déglutit en réprimant un houle-cœur. Les larmes lui vinrent aux yeux. La chasame s'éclipsa, puis revint avec une boîte qu'elle disposa sur la table devant son invité. « Ouvre !» ordonna-t-elle. Franny, dont la tête s'emplissait de vertige, s'obligea à soulever le couvercle d'un geste ferme. Lorsqu'elle plongea la main dans le carton, elle en sortit une poupée de glaise mal façonnée. Un bout de papier émergeait de sa poitrine. « Cet objet représente ton père, » expliqua la chenille. « Le papier qui sort du torse provient d'un emballage portant le nom de sa boutique. » Franny, paralysée, sentit le sol vaciller. Ses oreilles sifflèrent. Elle eut l'impression que son cœur cessait de battre. « Il y a encore quelque chose au fond, » insista la vieille en élevant le ton. « Cherche !» L'ordre, sec, tira l'adolescente de l'hébétude. Une aiguille à matelas brillait dans l'obscurité du coffret. « Mets une goutte de ton sang sur le cœur de l'effigie, » fit la vieille. « Le bout est pointu, » précisa-t-elle en désignant l'aiguille. « Tu ne sentiras rien. » Effectivement, Franny n'eut qu'à effleurer la chair pour qu'une perle rouge jaillisse au bout de son index. Elle la déposa sur la poupée, à l'emplacement du cœur. « À présent, transperce cette figurine, » commanda la chenille. « Ton sang pénétrera dans son corps et tu le domineras. Il n'osera plus te faire de mal. Frappe !» Franny souleva l'aiguille, mais ne put achever son geste. Alors la chasame lui saisit la main et abattit de force la tige d'acier. La pointe pénétra dans le bois de la table. La statuette s'en trouva clouée. Franny hurla. La seconde suivante, elle reçut une paire de gifles qui lui coupa le souffle. « Ça va mieux ?» s'enquit la sorcière. « Vous voulez le tuer ?» balbutia l'adolescente. « Idiote !» protesta la vieille femme, dont les yeux avaient à présent une expression égarée. « Je... idiote ! Ce n'était qu'une épreuve. Pour que ce soit vrai, il aurait fallu que des ongles ou des cheveux de ton père soient mêlés à la terre. Il n'en a rien été. Je voulais justement m'assurer que tu avais l'intention d'aller jusqu'au bout.
Maintenant, calme-toi,
ou tu ne remettras plus jamais les pieds chez moi. »